19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonsoir chers amis auditeurs, quel plaisir de vous retrouver. Quel plaisir parce que vous savez quoi, vous êtes très très nombreux à nous suivre. Au point où, voilà, écoutez, vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir commenter, analyser, décrypter l'actualité. Ça, ça fait plaisir. Vous êtes prioritaires, les amis auditeurs. Sachez-le, jamais, 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 je ne vous ferai passer après les autres. 0153 48 3000, c'est vous. Au 0153 48 3000, je le répète encore une fois, de nouveau, partout en France. Et évidemment, vous êtes amenés à venir commenter, témoigner l'actualité. Pendant toute la durée de l'émission, jusqu'à 20h. Alors, au sommaire de cette émission, qu'est-ce que je vous ai bien concocté? D'abord, nous reviendrons sur l'interview qui a été accordée donc sur BFM TV de Dominique de Villepin, avec quelques petits tacles parfois, clochette, on a la petite clochette qui monte. Ah, il est là, il est là, il est au tac. On voit le taulier quand même. Hein. Ah, on voit le taulier. Il est là le taulier, hein. Ça fait plaisir, je sais pas. Mec, j'ai même pas le temps de finir ma phrase qu'il a dégainé plus vite son ombre. Incroyable. Respect. Respect, Kimo. Ensuite, après, nous reviendrons. Donc, évidemment, c'est. Et il a trouvé que s'il a été confus, mais les propos d'Emmanuel Macron ont créé une confusion regrettable. C'est ce que dit d'ailleurs Dominique de Villepin. Nous reviendrons sur cette déclaration sur BFM TV face évidemment à cette interview. JO de Paris 2024. Franchement, moi je comprends pas. Il y a une personnalité de l'hôtel de ville qui prend le train. Bon, jusqu'ici, rien de choquant. Hein. Sauf qu'à un moment, il se réalise qu'il a oublié son ordinateur et sa clé USB qui contenait des données sensibles. Lui, c'est pas une clochette qu'il a le droit. C'est une triple clochette. Non mais, j'ai envie de lui dire, monsieur, vous êtes où là? Votre cerveau, vous l'avez laissé où à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est produit? Des données sensibles sur la sécurité des JO, vous vous rendez compte? Eh bien, on reviendra sur ça. L'IVG, certains étaient sceptiques, d'autres non. Alors ça y est, c'est dans le spectre de la Constitution. Ouais, ouais. Alors ça a provoqué, vous savez quoi, chers amis, une belle ovation, des larmes, des accolades. Ouais, clochette quand même. Non mais c'est bien, moi je suis content, attendez. Mon avis, c'est de dire, effectivement, il faut faire avancer le débat. Mais on posera la question aux débatteurs. À Gaza. Ah ouais, alors on en parle tous les jours, Gaza. Franchement, il va falloir qu'on mette les pieds dans le plat. D'accord? Parce que, alors, tout le monde, tous les médias ce matin en ont parlé. Y compris les journaux qui ont titré. Après, on va nous dire, oui, mais c'est le Hamas qui dit ça. C'est toujours cette fameuse bataille. Parce que ça vient du Hamas, donc ça pose problématique. Admettons, pas de problème, je veux bien. Laissons l'ONU faire le travail. On parle du cap des 30 000 morts qui ont été dépassés. Sauf que, qui ont été franchis dans la bande de Gaza. Sauf que là, la guerre, eh bien, elle est menacée de plein de choses tout à l'heure. On en reparlera parce que la famine, ça y est, elle est présente désormais, évidemment, dans cette région de Gaza et Rafah. Eh bien, on en parlera, on reviendra sur cette situation. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant. Et vous le savez, en toute liberté d'expression, n'est-ce pas, Kimo?
Les informés, le face-à-face.
Je salue Kimo parce que c'était un véritable partenaire. T'as le droit de dire bonjour, Kimo, hein? Tu te rappelles?
Ah oui, non, mais là, je suis en mode réalisateur aujourd'hui.
Mais quand je te vois, Kimo, le matin, n'oubliez pas, 7-10h, celui qui déchire la matinale. Kimo, moi, quand je te vois là, comme ça, en face de moi, ça me rappelle le matin quand on était ensemble.
Ah oui, quand on enchaînait. Exactement. Ouais. Tu étais juste derrière.
C'était un vrai kiff, hein, le matin.
Bah écoute, et le soir aussi, les gens kiffent.
Ah ben moi, le soir, il y a l'audience, elle est là. Ouais,
exactement.
Donc, on va garder la fidélité. Allez, si, tu rigoles, c'est lui. C'est lui la tête de pont. S'il est pas là, il n'y a rien. C'est lui la locomotive.
Je vais pas l'inviter s'il commence comme ça.
La journée commence le matin, c'est lui la locomotive. Allez, c'est parti tout de suite. Je vais accueillir Lobna. Bonjour Lobna. Europe au centre.
Europe écologie au centre.
Oui, absolument.
L'écologie au centre.
Oui, ça va, Lobna?
Oui, ça va très bien, merci. Et toi?
Tout va bien?
Oui, parfaitement.
Prête?
Prête.
À débattre. En découdre?
Oui.
Il y a votre collègue qui est en face. J'ai pas fait exprès. Hein.
Ah, c'est hasard. Pardon.
J'ai pas fait exprès.
Eh ben, je me suis rendu compte.
Mais non, parce qu'il était là quand il y a eu Marc Molli. Et je lui ai promis, je lui ai dit, il faut que tu reviennes parce qu'il est venu pour rien, le pauvre. Philippe Ladjiboyaki, conseil régional, bonjour.
Bonjour.
Co-porte-parole nationale de l'Europe écologie au centre.
L'écologie.
Mais c'est vous m'embrouillez là.
Mais qui est parti européen?
Allez, c'est bon, l'écologie au centre pour tout le monde. L'écologie au centre, l'écologie à droite, l'écologie à gauche, l'écologie tout court.
Non, l'écologie au centre.
Vous êtes surtout à droite, oui, mais bon.
Après, ça dépend, on est à droite de qui.
Ah, joliment dit, j'aime bien ça. Ah, il est bon, lui, il est bon, le Philippe Nadji Wayaki.
Il est bon.
C'est un Afritman, lui. À ses côtés. Qu'est-ce qui vous arrive, là? Vous tenir la tête, là? Qu'est-ce qui se passe? On dirait, vous portez le monde avec vous, là. T'es vénère ou quoi, Hassan?
Je suis pas vénère, non. J'écoute avec attention.
Hassan, il est vénère,
Hassan. Des uns et des autres.
Hassan Ben Barek. L'Obnasta, à ses côtés, c'est Gamal Abina. Gamal Abina, j'ai regardé une séquence en télévision où vous êtes fighté avec un mec du Rassemblement National.
Ouais,
ouais, ça faut arrêter, hein, Gamal. Hein. Ça y est, le Front National, il est désormais il fait partie du paysage politique. Hein.
Juste le micro de Gamal qui est mal branché, voilà, s'il vous plaît.
On va changer carrément de place. Allez, à tout de suite, je lance le sujet. Le premier, c'est l'Ukraine concernant donc la. Je sais pas si on va. Je vais demander à Kim, parce que Kim, il a l'habitude de retrouver la vidéo de ce matin de Dominique de Villepin sur BFM TV. La confusion regrettable, hein, et c'est facile à trouver. Mais je sais que Kim, c'est le patron, c'est le taulier, il va nous trouver ça. Philippe Nadji Bouriaki, ça a créé donc une confusion regrettable. Il a raison ou pas? Revenons sur évidemment ses déclarations. Parce qu'on parle que de ça, hein. On parle que de la déclaration
d'Emmanuel Macron. Concernant l'Ukraine. Bah oui.
Mais là, Dominique de Villepin qui dit ça.
Parce que je pense que dans sa présentation à Emmanuel Macron, et pour avoir échangé avec des gens de La République En Marche, il a fait un raccourci. Et vous savez qu'il y a actuellement, et on peut se le dire, des soldats étrangers sur le sol ukrainien, mais en tant que formateurs pour le déminage, pour la formation d'intervention, pour la compréhension sur le renseignement, etc. Donc il y a des Français, il y a des Anglais, il y a des Allemands, il y a des Américains. Ça, c'est un secret de polichinelle. Et donc, quand il parle de troupes françaises, évidemment, le président de la République ne parle pas d'infanterie, il ne parle pas du deuxième REP, du.
Ne jouez pas sur les mots, tout le monde a compris la même chose. Non, Philippe Nadjir, le conseil régional, arrêtez de jouer sur les mots.
Non, je ne joue pas sur les mots.
Mais il a été clair, le président de la République. Il a dit oui, on n'exclut pas le fait d'envoyer effectivement des troupes.
Il a dit on n'exclut pas. Mais il n'a pas dit qu'on
allait. Il a même d'ailleurs, dès le lendemain, il a vu que ça avait. Il a dit oui, je suis d'accord.
Et on a vu qu'il était pro-Poutine ou pas après.
Après,
on a vu.
Oui, qu'est-ce que vous
avez
vu?
Dans les tweets.
Oui, qu'est-ce que vous avez vu?
Dans les tweets, on a vu qu'il était pro-Poutine ou pas. Il n'exclut rien, le président.
Oui. Oui, c'est vrai, il n'exclut rien. Oui. Mais il a voulu jouer. Qu'est-ce qu'il a tenté de faire?
Il a tenté de dire je n'exclus rien. Il y a Zelensky avec lui. Je n'exclus rien. Il envoie les munitions, il envoie ce qu'il peut, il fait ce qu'il peut.
Oui, sauf que de l'autre côté, Dominique de Villepin, ce matin, pendant l'interview sur BFM TV, il dit il a joué, c'est une erreur. Il dit, il le dit clairement, il dit que c'est une erreur du président de la République parce que,
effectivement,
peut-être qu'il a voulu brouiller les pistes. Pour tacler le Front National, le Rassemblement National, Hassan Ben Barek et ensuite Gamal Abina.
Villepin donc dit que c'était une erreur, tout simplement parce que aujourd'hui il y a aussi le bon. Pour revenir à ce que tu disais il y a un instant.
Dans le micro,
Philippe, c'est que
bon. Qu'est-ce qui se passe?
Ça bloque.
Ça bloque. Ah bah allez-y alors, Gamal Abina. Eh ben ça reviendra.
Après, je reviendrai.
C'est pas grave, ça bloque, ça arrive.
Je vais donner un peu de champ pour pouvoir parler. Non, moi je pense que, pour être très honnête, je suis très étonné, j'ai demandé à des proches de Macron comment il a pu avoir une sortie aussi hasardeuse. Parce que le fait de dire je n'exclus pas, déjà c'est une extrêmement tendue.
Il va vous achever. Hein.
De Villepin a raison sur un point, c'est qu'effectivement, mais il n'y a pas que lui d'ailleurs, les Américains le disent, les Anglais, tout le monde. Je veux dire, la guerre malheureusement pour les Ukrainiens est perdue. Je dis bien malheureusement parce qu'elle est morte pour rien. Ça aurait pu être évité, bon, ça, on passe à côté. Et ce qui se passe, c'est que M. Macron, quand il sort ça, il oublie qu'il a un ogre russe en face de lui. Et cet ogre russe, quand il entend ça, ça l'énerve. Il y aura des conséquences a posteriori, il ne pourra plus négocier la paix alors qu'il était bien parti. Il était sur une position quand même d'équilibre. Donc je pense que cette erreur, quand il dit je n'exclus pas d'envoyer des troupes au sol, les troupes c'est clair, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est bien une cargaison de soldats qui voulait envoyer. Il y a des coopérants militaires, c'est vrai, ça a été dit par Philippe. Il y a aussi des mercenaires qui sont connus, hein, c'est documenté, il y a des morts, il y a des gens qui y vont parce qu'ils sont anti-russes, qui sont pro-ukrainiens, qui veulent s'amuser à la guerre, mais là, cette sortie-là était tellement hasardeuse que je me suis posé la question de savoir si réellement il maîtrisait ses dossiers à l'international. Et j'ai l'impression, et c'est ce que tu as dit, en l'occurrence, j'ai l'impression, Luna, que chaque fois qu'il a un interlocuteur en face de lui, il va dire ce que l'interlocuteur veut entendre. Par exemple,
il
voit Zelensky, lui
dit. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand?
Justement, il a fait quoi avec Netanyahou? Non, mais sur Netanyahou, il a fait le coup. Bibi, on fera une coalition internationale. Le lendemain, il voit l'Égyptien, il dit autre chose.
Oui, il a remboursé le chemin.
Mais voilà, à chaque fois, il dit un truc en fonction de son interlocuteur, il s'adapte. Et le problème, c'est qu'un chef de l'État ne peut pas faire ça. Et De Villepin fait bien le dire. Le rappel alors, ça coûte des points à la France.
Oui, Hassan Ben Barek. Et ensuite, après, Loubnasta et Philippe Lindjibouek.
Gamal, parce que je pense qu'à ce niveau-là, le président mesure l'impact de ses propos.
Oui, oui.
Bon, je pense qu'il y a aussi un autre dossier qui est quand même important de mentionner, c'est qu'il y a des troupes. en Roumanie actuellement. Et qu'aujourd'hui, il y a un problème aussi avec la Moldavie. Et donc, je
pas
pense
encore,
que, mais je pense que le président anticipe et fait le pari sur le fait qu'il risque d'y avoir une dégradation de la situation.
La Transnistrie, tu veux dire.
Voilà. Ouais. Non, mais la Moldavie qui est donc rattachée à côté
bien,
de la Roumanie.
Tout à fait.
Donc, il risque d'y avoir une dégradation de la situation. Et je crois qu'à ce niveau-là, on peut pas dire qu'un président de la République peut se permettre de tenir
c'est
ce type
faux,
de propos.
C'est pas faux, la piste elle est plausible. Ah, hein,
ne peut pas se permettre de tenir ce type de propos à la légère, surtout que bon, les 20 autres chefs d'État, en tout cas tous les autres chefs d'État derrière, ont dit que bon, il est hors de question d'avoir des troupes. Absolument. Mais si tu veux, lui fait de la prospective. Il sait que la situation va se dégrader et qu'il va bien falloir.
Il pense.
Il va bien falloir trouver un moyen d'arrêter Poutine.
Alors écoutez, on va écouter, vous savez quoi,
Macron, c'est un visionnaire quand même. On peut pas lui enlever.
Vous êtes d'accord avec ça?
Sincèrement, je lui enlève.
Visionnaire.
Vous
le retirez, vous?
Non, je ne sais totalement pas. Il est très hasardeux. Moi, je pense qu'il est excellent dans la finance et mauvais en international.
Oh, clochette. Oh là là, ce qu'il ne faut pas entendre.
Il est fort.
Arrêtez de m'aider. Gamal Abina, je vous rappelle que vous-même, dans ce micro-là, vous étiez là il y a quelques mois, voire un an, ou même pendant le Covid, vous étiez en train de nous dire, je vous le rappelle, vous avez dit. Il a bien géré le pays.
Il gère bien.
Il a assuré.
Je maintiens.
Le Covid, il a bien géré.
Je maintiens.
Les gilets jaunes, il a bien géré.
J'ai pas dit gilets jaunes. Je maintiens pour le.
Souvenez-vous, c'était dans la même place. Non, c'est votre place ici.
Non, j'ai dit, il a bien géré le Covid, pas les gilets jaunes, pas exagérer. Il a bien géré le Covid.
Il a dit que c'était
C'est un bon gestionnaire qui est mauvais en relation internationale. Ça a fait. C'est deux choses différentes.
Donc vous avez retourné?
Non, pas du tout. Bon gestionnaire, mauvais en relation internationale.
C'est pas lui qui gère.
Pas
Macron est devenu l'ennemi.
La crise en Ukraine, les députés européens.
Non, mais c'est possible.
Non,
c'est votre intérêt. Mais qu'est-ce que vous disiez,
Lobna? C'est l'Europe qui va gérer l'Ukraine, si on doit emmener.
Von der Leyen.
Sauf que là, il est parti tout seul,
on attend les élections européennes, on verra.
Je pense que.
Non, mais on ne sait pas, ça brouille les pistes. Attendez, vous savez quoi, Hassan, je vous donne la parole, parce qu'il y a Philippe Nedjibouyaki, pour essayer de donner un peu de l'ordre dans tout ça. 01 53 48 3000, oui, vous pouvez nous appeler, nous livrer votre point de vue. On va écouter Dominique de Villepin face à cette interview à Pauline de Malherbe. C'était ce matin sur BFM TV. Écoutons.
Si on prend la déclaration telle qu'elle est exprimée ce jour-là, puisqu'elle a été corrigée, elle introduit un élément de confusion regrettable. Dans un rendez-vous, qui est un rendez-vous important, le sommet de Paris, rassemblant plus d'une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement européens pour coordonner l'action européenne en Ukraine. Donc je ne suis pas sûr que l'objectif visé, qui était sans doute d'envoyer un message de fermeté à Vladimir Poutine, dans un temps qui est un temps difficile, puisqu'on voit bien que l'échec de l'offensive ukrainienne a introduit un élément de doute, qu'il y a par ailleurs aujourd'hui un sentiment de force du côté russe, du côté de Vladimir Poutine. Donc je crains que cette phrase soit venue à contre-temps introduire justement un élément d'incertitude plus que la garantie souhaitée sans doute par le président.
Voilà les propos Philippe Nedjibouyaki, pardonnez-moi, mais là c'est très clair. Vous l'avez entendu, Dominique de Villepin. Vous dites oui, mais il faisait pas allusion d'envoyer des troupes.
Oui,
vous avez entendu la réponse de Dominique de Villepin, ancien Premier ministre, ancien ministre diplomate du Quai d'Orsay, etc. Philippe Nedjibouyaki, ensuite Hassan.
J'ai un profond respect et une grande estime pour Dominique de Villepin.
Et nous partageons tous.
Mais clairement. Oui. Et je pense que dans ces temps très troublés, c'est un des rares hommes politiques à avoir la stature nationale et internationale. Il est au-dessus de la mêlée, clairement. Je crois qu'on est tous d'accord. C'est un grand diplomate. Et c'est vrai qu'en diplomate, il a des freins beaucoup plus forts qu'un entrepreneur comme Emmanuel Macron.
Il est encore pire que moi. Entrepreneur.
Oui, entrepreneur. Mais si, il est entrepreneur.
Non, je suis d'accord. Mais
de base, Emmanuel Macron est entrepreneur. Il avait une société, etc. Il travaillait chez Rothschild. Enfin voilà, il a l'esprit managérial et entrepreneurial. Donc ça, on peut pas lui reprocher. Voilà. Maintenant, c'est vrai que sur la façon de s'exprimer, il est un petit peu plus rentre dedans que Dominique de Villepin, qui est un petit peu plus rond, qui a arrondi les angles, mais parce qu'il est un diplomate de base. Dominique de Villepin, on peut pas l'exclure.
Tout ce que je peux dire,
ensuite,
c'est que
je pense
qu'à ce niveau, je dirais que il y a rien qui est laissé au hasard. Donc, s'il a
exactement, c'est surtout ça.
C'est que forcément, il est au courant. Il a des informations que nous n'avons pas, d'accord. Donc, il a toutes les données de l'équation. Et bon, je reviens un peu sur ce que Dominique de Villepin a dit. Certes, il a dit que c'était peut-être une erreur, mais il a aussi expliqué les trois raisons qui font que Macron s'est engagé dans ce type de position. C'est que d'une part, il disait que bon, le premier, c'était de réintroduire un clivage en France entre ceux qui soutiennent l'Ukraine et ceux qui sont contre l'Ukraine, comme
c'est quand même abominable, ça.
Voilà. Oui, ça, c'était le premier élément. Le second élément, c'est de dire aussi il y a une sorte d'effacement du leadership des Américains en Europe, et pourquoi pas aujourd'hui la France s'est toujours positionnée pour essayer de créer une défense européenne, alors que tous les autres pays oui, ont fait. Toujours voulu maintenir l'OTAN. Et la troisième chose aussi, c'est le fait aussi de sortir une phrase, un mot qui fasse le buzz. Et
puis, électrochoc,
il a réussi,
un électrochoc. Voilà. Eh bien, on revient. Lobna, je vous donne la parole tout de suite après la première pause. 0153483000. J'irai accueillir Mohamed de Paris, ensuite tous les autres au 0153483000. Et on se retrouve dans une poignée de minutes à peine. Ne bougez pas.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Et les 19h21 avec Lobna Sta, avec Gamal Abina, enfin avec Hassan Bembarek et enfin, oui, surtout Philippe Nadji Bouyaki. Les auditeurs ont la parole. C'est parti, jingle.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Je sais, Kimo, je sais. Imprévisible. C'est comme ça, c'est mon surnom. Sarah de Paris. Bonsoir, Sarah.
Oui, bonsoir Adil.
Comment ça va?
Non, ma question. Oui, ça va, bon.
Sauf que quoi?
L'actualité n'est pas très bonne.
Oh là là, qu'est-ce qui vous arrive, Sarah? Là, vous êtes pas bien lotie là. Qu'est-ce qui vous êtes laissé embarquer par l'actualité, c'est ça?
C'est l'avenir de nos enfants. Hein.
Ouais, c'est ça. Bah allez, on vous écoute, ma chère Sarah.
Oui, moi, ma question à tous les élus, et je ne sais pas si dans votre. Il y a des élus.
Il y a des élus.
Je ne comprends pas comment ils ne peuvent pas bouger avec tout ce qui se passe, parce qu'avec toutes les annonces que M. Macron nous annonce, c'est horrible. Les agriculteurs, ils vont mourir. 3 millions de dollars pour l'Ukraine. Il est en train de dévaliser, de détruire la France. Il est en train de la détruire. Et là, ce qui reste, c'est qu'il a eu quand même, pour les réservistes, il y a quand même une loi qui le 1er août 2023. Si jamais quelqu'un refuse, il est en prison pendant 5 ans. Et 500 000 euros d'amende. Alors, quand ces élus, ils vont bouger? Quand?
Sarah. Sarah, ça tombe bien. Regardez, on va vous répondre. Sarah, c'est une très bonne question. On a Loblasta, qui est une ancienne proche de Macron, c'est vrai, d'Emmanuel Macron. Vous êtes toujours en contact avec lui? Oui?
Ça m'arrive.
Ça vous arrive. Alors, répondez à Sarah.
Bah, il bougera quand il voudra.
Voilà.
C'est ce que j'ai envie de dire.
Elle a raison. Elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Pourquoi cette inertie complète concernant, évidemment, le président de la République impose une vraie question.
Je ne pense pas que ce soit une inertie. Il est en train de...
Ils gardent leur poste, alors, c'est tout.
C'est pas de leur faute.
L'élu, le conseiller régional, qu'est-ce que vous lui répondez?
On ne peut pas plaire à tout le monde. Puis gérer un pays comme la France, avec les caractères que nous avons, nous, Gaulois, de tout horizon, de toute origine, très belliqueux et très nerveux, c'est un peu compliqué. Et puis, il y a des directions, des fois, qui ne portent pas leurs fruits immédiatement, qui demandent un certain temps, une certaine latente. Mais le problème, c'est toute l'administration qui est derrière, le temps de faire retomber...
Mais non, c'est le président. C'est le président.
Non, c'est pas le président.
Pas tout non plus. Le président...
Je suis désolée.
Je peux finir, ça?
Il est en train de faire des trucs incroyables.
Le président, il représente la France à l'international. C'est le gouvernement. Il ne faut pas faire la différence.
Tout à fait d'accord.
Le gouvernement, on n'a pas de gouvernement.
Oui, il faut parler du gouvernement, c'est bien, mais Macron, c'est le président de la République.
Non, mais sauf que comme Sarah, ils sont beaucoup à penser comme ça. C'est ça le problème.
Oui, mais il faut faire la part entre la présidence et le gouvernement.
Ben, vous avez dit le gouvernement, c'est le président. Voilà ce que vous avez répondu.
Non, je ne suis pas d'accord.
Bon, Sarah.
Ouais. C'est hallucinant, on est en train de mourir et voilà, c'est tout.
Oui, mais ça.
Mais qu'est-ce que vous faites en tant qu'élu normalement?
Mais je ne suis pas élu déjà, d'une part. Je ne suis pas élu.
Moi, si je choisis de faire de la politique, c'est pour choisir. Pour défendre mon pays, pour défendre mes enfants.
Vous avez raison, Sarah.
Venez nous rejoindre, Sarah. Venez nous rejoindre.
Sarah,
écologie au centre.
Merci.
Venez nous rejoindre.
Merci. Merci Sarah. Merci Sarah
d'être intervenue. On se voit très vite, Sarah, ensemble pour les combats.
On va accueillir Mohamed qui nous appelle de Paris. Bonsoir, mon cher Mohamed.
Bonsoir tout le monde. Bonsoir, merci de me recevoir à nouveau. Bonsoir.
Allez-y, on vous écoute, mon cher Mohamed.
De vous écouter.
Bien sûr.
Moi, je suis 100% d'accord avec Sarah qui vient juste. Je l'ai écouté. Et j'estime que c'est vrai, les élus sont tous dans leur coin. Le président de la République, il dit des sottises, mais franchement, c'est abusé. Donc, concernant le conflit, justement, avec le conflit russe-ukrainien, je l'ai dit hier, si ça continue comme ça, on va aller vers une guerre mondiale. Je l'ai dit hier, si chacun tire à la corde, d'un côté la Russie trop fort et de l'autre côté l'OTAN trop fort, la corde elle va finir par péter. Je dis l'OTAN, je dis pas l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, je le dis parce que c'est un guignol. C'est un pantin qui est, l'OTAN lui dit, tu dis ça, tu fais ça et tu fermes ta gueule.
Ça me rappelle le billet d'humeur, ça me rappelle la petite chronique billet d'humeur écrite dans un canard par Jean-Pierre Chevènement, qui parlait aussi de Troisième Guerre mondiale, figurez-vous, Gamal Abida.
C'est toujours dans l'excès, moi je suis pas d'accord avec ça.
Ouais.
On est toujours dans les excès parce qu'on veut faire peur.
François Hollande était président de la République à l'époque et qu'il y avait la guerre avec l'État islamique contre la Syrie et l'Irak. À l'époque, Barack Obama, il disait qu'il ne faudrait pas que la Russie dépasse la ligne rouge qui était l'usage d'armes chimiques.
C'est un message qu'il a fait passer à Poutine. Emmanuel Macron, voilà. Pour éviter justement.
Je parle d'Emmanuel Macron, il fait passer un message à Poutine
pour éviter une troisième guerre mondiale et pour que la France, pour la sécurité de la France. Tout simplement.
Pourquoi vous me coupez, madame?
Non, mais je vous coupe pas, je vous laisse parler.
Je parle d'Emmanuel Macron et je reviendrai. Là, je parle de François Hollande quand il a.
François Hollande, il y a 10 ans, s'il vous plaît.
Pas de ligne rouge à dépasser. Mais Poutine, il avait dépassé cette ligne rouge en utilisant des armes chimiques à cette époque-là. Et François Hollande, il voulait rentrer en guerre contre la Russie parce qu'il avait dépassé la ligne rouge.
Et il a reculé.
Mais c'est Barack Obama qui lui a dit tu vas te calmer, mon petit François. C'est la Russie.
C'est pas ce qui s'est passé. Barack Obama dit je ne suis pas.
Révisez vos dossiers.
Je le connais par cœur. Barack Obama a refusé de suivre. Il n'a pas dit tu vas te calmer, il a dit je ne suis pas. Et Hollande s'est dépantalonné et a reculé avec les Anglais. C'est ce qui s'est passé. C'est parce que les Américains n'étaient pas dans le bateau.
C'est ce que je suis en train de dire. Il a reculé. Donc François Hollande, lui, il voulait y aller en guerre contre la Russie. C'est Barack Obama qui a dit non, moi j'y vais pas. Et François Hollande, il a reculé.
Oui, mais aujourd'hui, Emmanuel Macron, il a en possibilité d'y aller s'il veut.
Après, moi, je vais te
laisser. Madame ?
Non, mais je vais te
laisser. Oui, avec l'Europe, tout à fait.
Ouais, non, mais.
Vous me dites Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, c'est pas l'Europe, madame. Emmanuel Macron,
non,
c'est
mais
la
Emmanuel
France.
Macron, il aura. C'est
une locomotive, la France, dans l'Europe.
Non, il n'aura pas de soutien parce qu'ils l'ont dit.
Ils l'ont dit.
On n'enverra pas de troupes sur place.
Il a menacé, il a prévenu Poutine que si il dépassait les bornes.
Mais ça, je ne crois pas du tout à ça.
Il irait.
Bon.
C'est tout.
Et là, merci, Mohamed. C'est ça que je veux, moi. C'est ça. C'est que je veux que les auditeurs débattent avec nos débatteurs.
L'armée française toute seule ne fera pas le poids.
Évidemment.
De toute façon,
ça, vous avez raison, mon cher Mohamed. Ça, c'est vrai, effectivement.
Mais moi, j'allais dire une chose quand même importante.
Le poids des troupes françaises ne tiendront pas. Allez, peut-être une semaine.
Non, c'est une certitude. Je suis pas si sûr.
C'est certain.
Pas une semaine.
En conventionnel, il n'y a aucune chance.
Pas une semaine.
Non, en conventionnel,
allez, on va être gentil. Deux semaines.
Mais déjà, la
les Français. Non, mais en conventionnel, il n'y a aucune chance, évident. Qui peut écraser une armée de 12 000 chars.
Mais 12 000 chars, ça fait deux ans qu'ils sont en train de s'embourber.
Attendez, c'est la cacophonie dans tous les sens. Mohamed, merci de nous avoir appelé, on va accueillir.
Une dernière chose, parce que la dame, elle dit que si Emmanuel Macron est seul, les Européens vont le suivre. Dans une guerre mondiale.
Celui qui est le plus proche de la réalité, je pense, dans la géopolitique, c'est la déclaration ce matin, Mohamed, de Dominique de Villepin. Effectivement, moi je pense qu'elle est assez proche de la
réalité.
Merci Mohamed, je vous libère Mohamed parce que j'ai beaucoup d'appels. Cédric de Lille, parce qu'il faut que j'avance quand même, j'ai d'autres sujets que je veux traiter. Cédric, bonjour.
Oui, bonjour Odile.
Bonjour, bienvenue depuis Lille. Ça va depuis Lille ?
Ça va et toi ?
Ça va, moi bien. Voilà, dans mon studio parisien, dans Beurre FM, sur les studios. Allez, on vous écoute.
J'ai une question à vous poser. Cédric, parce qu'on entend souvent le Pas-de-Calais était complètement inondé, etc. Est-ce que sur l'île Roubaix, l'Islénois, est-ce que vous aviez les mêmes problématiques ?
Non, pas du tout. On ressent quand même des petites remontées d'eau autour des champs, parce que nous, on est un peu plus haut. On ressent quand même des remontées d'eau au niveau des plaines, ça se gorge. qu'il ne faudrait pas de fortes pluies, mais pour l'instant, on est totalement...
Épargné.
Merci. Bien sûr.
Eh bien, tant mieux. Merci pour cette réponse, parce que c'est le conseiller régional qui voulait avoir, évidemment, des éléments de réponse. Cédric, on vous écoute.
Bon, je vous ai écouté hier, et je trouve que les sujets d'hier et aujourd'hui, on parle encore un peu de la même chose, donc j'aimerais avoir
C'est normal, Cédric. C'est l'actualité qui nous anime dans le quotidien.
Oui, oui. Donc hier, on parlait des guerres et de l'IVG. Aujourd'hui, c'est un peu les mêmes problèmes. Donc moi, en fait, il y a une question que je me pose, Adil. Constamment, là, ça fait depuis le Covid, d'ailleurs, où j'entends la population, donc des millions de personnes, critiquer le comportement des dirigeants. Donc ça, c'est un fait. Ça, je l'accepte.
Oui.
Ces comportements-là ne sont pas parfaits. On le voit bien. Mais... moi, quand j'entends parler constamment des mêmes problèmes d'agriculture, donc d'alimentation. Quand on parle d'agriculture, on parle d'alimentation, on parle de consommation. Donc c'est encore une fois le peuple, la population. Oui. Quand on parle d'IVG, c'est encore une fois de plus la population.
Oui.
Je vais faire court, Adil.
Oui.
Pour moi, le mot qu'il faut caler à tous ces problèmes, c'est éveil. Éveil dans le sens où, quand on pose le problème de l'IVG, moi, je ne comprends pas qu'on ne met pas un max de pognon au niveau de l'éducation nationale. On le voit bien, je vis dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a énormément d'IVG, comme d'autres endroits en France, je ne veux pas dire qu'on est pire, mais pour moi, c'est une question d'éducation. Les guerres, c'est aussi une question d'éducation. L'agriculture, c'est aussi une question d'éducation alimentaire. Tout est une question d'éducation. Mais avant cette éducation, il faut un éveil. Donc,
ça passe par quoi l'éveil alors, mon cher Cédric? C'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez faire allusion à quoi? Notamment cet éveil, c'est quoi? C'est aller voter? Bon. L'éveil, c'est quoi? C'est une prise de conscience? L'éveil, c'est quoi? C'est tout ça?
On en revient souvent avec Vanessa le soir entre 21h et 23h. Quand on parle généralement de toutes sortes de problèmes, conflits familiaux, conflits sociaux, conflits de quoi que ce soit... on a beau tourner encore une fois autour du programme, autour du problème, des heures et des heures, on voit bien que c'est une question d'éveil et d'éducation. On a beau critiquer le comportement de M. Vladimir Poutine, de M. Emmanuel Macron, de tous nos dirigeants, moi, il y a une chose qui m'horrifie, c'est que ces gens sont au travers de la télé. Nous, on est entre nous.
Il y a les bureaux de vote pour se réveiller. c'est ce que j'ai envie de vous dire, moi.
Madame, il n'a pas que les bureaux de vote. Maintenant,
non, mais il faut voter pour se réveiller, réveiller la population. Si 20% des gens en France votent, on ne va pas s'en sortir.
Et je ne veux pas trop aborder le sujet de comment un hémicycle se déroule et comment les lois...
Non, mais là, en fait, c'est parce que je ne vois pas où vous voulez en venir, en fait.
Il parle d'éveil.
Oui, de prise de conscience.
Oui, il faut se prendre... prenons conscience, allons voter, faites quelque chose, proposez.
Madame, en fait, vous avez bien fait d'intervenir parce qu'encore une fois, vous avez réappliqué, vous avez translaté le problème sur encore nos dirigeants d'éducation. Mais en fait, si nos dirigeants se rendent compte que nous, on évolue, parce que là, il y a un déclin, madame, vous qui êtes bien placé, vous avez des chiffres sous les yeux constamment, on parle de déclin social, alimentaire, industriel. Vous intervenez dans le sens où vous me demandez, vous ne comprenez pas les choses. Donc je vais vous expliquer les choses.
Non, j'ai pas besoin de vous expliquer, c'est bon, je connais.
Bon, en tout cas, on a bien saisi, effectivement, vous avez raison de nous interpeller sur le sens de l'éveil. Cédric, prenez soin de vous depuis Lille, restez fidèles, et à très bientôt, parce qu'il faut que j'avance, parce que le temps court. Merci Cédric pour votre intervention et pour votre point de vue. Il faut qu'on parle des JO de Paris 2024, je veux juste qu'on parle, vous savez quoi, avant d'entamer évidemment, parce que là on est très en retard, un ordinateur volé, des clés USB contenant des données sensibles, comment est-ce possible, Philippe Medjibouriaki?
Ça inquiète. Alors,
tout le monde flippe maintenant.
Non, alors, on se rassure. Les ASVP, police municipaux de Paris, auront certaines prérogatives, mais ils n'ont pas la prérogative de la sécurité totale. Donc, mais, à juste titre, il faut quand même être sensible et faire attention et renforcer les dispositifs de sécurité et les modifier. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que... il a changé de train et visiblement c'est au moment du changement de train que sa pochette aurait été oubliée ou aurait été substituée. Je laisse l'enquête se faire évidemment.
C'est lui qui l'a oublié.
Alors, je ne sais pas s'il a oublié. Un coup, on lui a volé, un coup, il a oublié. J'attends, oui, d'accord. Mais après une dure journée, peut-être que le type avait des problèmes. C'est, moi, je ne vais pas incriminer le type en question. Il est arrivé à des gens d'oublier leur enfant à l'arrière de leur voiture et de partir au boulot. Non, mais ce que je veux dire, des fois, il peut arriver des.
Bizarrement, ça arrive souvent aux hommes.
Oui, souvent.
Ah, c'est pas faux.
Bah ouais, souvent. Non, mais tu peux être préoccupé par un tas de choses et être complètement.
La charge mentale.
Et peut-être qu'il s'est assoupi. Enfin,
vous,
voilà.
Les femmes, vous êtes mieux que nous quand même là-dessus. Ah,
oui, ouais, oui, enfin, oui. Quand tu te fais subtiler ton téléphone ou ton ordinateur, ça peut arriver à un homme, à une femme. Enfin, je n'accable personne. Il y a une enquête qui est en cours, des vidéosurveillances.
Oh, mais la question que je vous ai posée, est-ce qu'il faut craindre? C'est ça, la question.
Non, je suis complètement serein.
Évidemment, est-ce qu'il faut craindre des choses? Voilà. Très serein.
Et oui, il faut craindre parce que nous sommes dans un dispositif de vigipirate renforcé. Parce que nous sommes sous une menace terroriste, ça c'est un fait, mais sur là ce qui vient d'être dérobé ou subtilisé ou perdu ou oublié, tout va être modifié, tout va être réorganisé.
On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite après, d'accord ? Et je fais un tour de table, à tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant, 19h-20h, les informés présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Il est 19h40 précisément avec Lobna Sta, avec Gamal Abina, avec Hassan Bembarek et enfin avec Philippe Nadji Bouriaki. Je voudrais vous donner la parole justement, Hassan Bembarek, concernant les JO avec ce vol d'ordinateurs, de clés. Vous savez que dans les hautes sphères évidemment de la police, eh bien ça y est, les choses sont prises très au sérieux. Notamment, on parle de crainte aujourd'hui. Hein.
Écoutez, je ne sais pas quoi trop penser de cette histoire, parce que si c'était vraiment quelque chose de prémédité, si il y avait des gens qui avaient l'intention donc de s'emparer de plans, de documents, il aurait fallu qu'ils sachent avant que la personne, puisque c'est un ingénieur, s'occupait de ça. Hein, deux, qu'il transportait dans sa mallette ses documents ou ses clés cryptées. Et trois, qu'il y ait une opportunité de pouvoir voler la sacoche. En tout cas, s'il y avait un voleur, de pouvoir voler la sacoche. Tout ça me semble un peu tiré par les cheveux. Donc, je pense que, tout simplement, peut-être qu'il y a eu quelqu'un qui, dans la gare du Nord, dans un changement de train, a pris le sac, la mallette, dans lequel il y avait un ordinateur. Oui, mais c'est une éventualité. Il faut pas voir. Non, mais non. Le souci, c'est que non. Oui, parce qu'il y a, si vous voulez, il y a beaucoup de choses qui sont superposées, qui me semblent un peu tirées par les cheveux. Je vais rebondir parce que bon, on peut aussi penser que la volonté aussi de mettre en lumière ce type d'affaire, qui est quand même une affaire mineure pour moi. Hein, ouais. Si c'était vraiment si important que ça. Les documents sensibles ne se baladeraient pas auprès d'un ingénieur. Voilà. Donc, je pense que c'est aussi peut-être une volonté, pourquoi pas, des pouvoirs publics ou de gens, de dire voilà, on est vigilant, c'est d'introduire un peu ce sentiment, bon, bah, à l'approche des Jeux, avec ce qui se passe un peu au Moyen-Orient, ce qui se passe un peu partout, les indicateurs sont pas très bons. Donc, de se dire voilà, il faut être sur un terrain de vigilance. Hein, ça me fait penser un peu à la Seconde Guerre mondiale où vous avez ces images de propagande. Donc, rien n'est impossible. Mais moi, ça me semble un peu tiré par les cheveux, quoi, que ce soit. Voilà.
Gamal Abina, tiré par les cheveux, vous dites quoi, vous? Qu'est-ce que vous répondez?
Bon, déjà, tout le monde peut faire une erreur, ça arrive. À Gare du Nord, bon, en général, les chapardeurs, il y en a, hein, comme partout. Mais il ne faut pas perdre de vue une chose essentielle, c'est qu'on nous a beaucoup monté le bruchon sur l'histoire des Jeux. Ça avait commencé d'abord par le championnat du monde de rugby. On a envoyé des attentats, des massacres, on peut organiser, on ne peut pas. Ça s'est très bien passé. Ces Jeux se passeront très bien. On n'est pas à Munich en 72, on n'est pas chez.
Ça,
chez
on ne peut pas savoir.
Il est probable que ça se passe bien. Pourquoi? Pourtant, il y a deux raisons qui font
Vous oubliez le couac au Stade de France à Saint-Denis?
Ça n'a rien à voir. Là, c'est polémique. Là, c'est du foot.
Bah, oui.
Et dans le foot, en général, ça se passe mal.
Bah, la question s'est posée à ce moment-là. Oui, est-ce que la France est prête, justement, de gérer les JO? La question s'est posée à ce moment-là. Souvenez-vous, Gérald Darmanin a été convoqué au Sénat.
C'est pour ça que je dis, il y a l'organisation du foot qui, à Ezel, en Belgique ou en Angleterre, on a eu plein de massacres à cause du foot parce que.
Mais il va y avoir du foot là au JO.
Non, mais non, la marche, c'est des apprentis, j'allais dire, pratiquement, c'est des amateurs.
Bah, quand même.
Mais non, mais c'est des amateurs, il n'y a pas de.
Ne négligez pas.
Non, les Jeux Olympiques se passent bien en général. C'est rare quand il y a des problèmes parce que ça amène des familles bien ordonnées. Il n'y a pas le côté excité des footballeurs. Le problème du foot, effectivement, c'est ce qui s'est passé à Saint-Denis, c'est qu'on a des dingos en face de nous. C'est-à-dire que déjà, les supporters posent problème. Donc, faut pas perdre de vue que moi, j'ai aucun doute sur le fait, sauf accident délirant, que ça se passe bien en France pour deux raisons. La première, parce qu'ils savent organiser, hein, faut arrêter de dénaturer. Et la deuxième, parce que M. Macron.
La moitié de Paris est un chantier.
Mais c'est pas grave, ça.
La Malabina.
C'est pas grave.
Comment ça, c'est pas grave?
Je suis deuxième chose.
Vous faites pas 30 mètres sans contourner.
Moi, ça me dérange pas. À Paris, ils font du verre, ça me va très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que.
Ça ne concerne qu'une élite.
Je suis mon propos. Très important. Deuxième aspect, c'est que M. Macron, on le critique beaucoup. Là, il a vu une sortie hasardeuse tout à l'heure sur la guerre. Il ne va pas en guerre. Monsieur Macron sur l'Afrique, il a pas fait de conneries, il a pas fait la guerre, il fait la guerre nulle part depuis 5 ans. Il faut lui reconnaître ce crédit quand même. On peut le critiquer sur les choses, mais sur le plan international, il est propre. Macron, il fait la guerre à personne. Donc, parce qu'il fait la guerre à personne, même si parfois il dérape un peu verbalement, ça reste un homme équilibré, ça reste un homme de raison, qu'on le veuille ou non. Aujourd'hui, la France, elle a une posture qui rappelle la posture chiracienne.
Il a droit à une clocheté, vous savez pourquoi? Parce qu'il nous a fait une séance de rattrapage.
Non, pas du tout.
Gamma la vida. Non,
Juste te dire pourquoi les Français, la population s'en fout des Jeux Olympiques.
On qui s'en fout?
La population.
La population française.
Ah, je crois pas. Les audiences, elles sont là en général.
Non, les audiences,
je veux dire, ça concerne qu'une élite. Quand tu vois que la place, elle est à 80 balles.
Oui, ça, c'est vrai. J'ai vu 1200 euros. Si, je vous jure. J'ai vu 1200 euros.
La moitié des Français.
Plus cher que
La moitié des Parisiens vont quitter Paris.
Je vous promets.
La moitié des Parisiens vont quitter Paris. Ça ne concerne qu'une élite.
C'est pas faux ce que vous dites. C'est vrai.
Et donc, vu l'état de Paris aujourd'hui, bon, voilà.
Ah, vous taclez.
Je tacle
Madame Hidalgo.
Non, Paris est une belle ville.
Au passage, ping-pong.
Paris
est
une belle ville.
J'adore Paris, moi. Attends, j'adore le béton et.
J'adore pas le béton quand même. T'es verte, je te rappelle.
Oui, mais j'adore Paris, moi. Je suis une parisienne de base.
Mais béton,
non, mais.
T'aimes la nature, faut le dire.
C'était ironique.
J'espère bien.
Hassan Mbarak, il faut qu'on passe au sujet.
Ce que disait Gamal, je suis pas très sûr que ça risque de se passer très bien. Il n'y a pas de certitude.
Ouais.
Il y a un environnement international qui est assez compliqué aujourd'hui. Il y a forcément peut-être des gens.
Attention, on vous entend.
Des États qui auraient intérêt à mettre en difficulté la France.
Absolument.
Donc aujourd'hui, le contexte est assez difficile international. Bah. Et c'est pas. Alors je sais pas si ça viendrait d'un État étatique, en tout cas d'une structure étatique qui mettrait en place des attentats ou tout ce qu'il pourrait y avoir. Mais ça peut être aussi des loups solitaires. Donc il y a pas mal de gens qui ont intérêt à ce que les choses se passent mal.
Allez,
en France.
Allez, je vous laisse le choix. Il faut que c'est 19h46.
Voilà. Et ce que disait Gamal, c'est vrai qu'actuellement Macron n'est jamais parti en guerre. Et ce qu'on sait aujourd'hui de ce qu'il y a eu comme attentat, c'est que ça a toujours été en réaction à des actions que la France avait menées à l'étranger.
Je vous laisse le choix. J'ai deux sujets que je dois traiter. IVG ou Gaza?
Gaza.
Bah
oui, c'est le plus court.
Vous validez? Philippe Nedjiboyaki, là, il est au bout
en
du
En tout cas, rôle. Bravo pour le fait que la Constitution est adoptée quand même.
Ah bah voilà, quand même.
On
va attendre lundi, mais normalement.
Disons qu'elle a été adoptée tout simplement parce que c'est que dans les pays où il y a l'extrême droite.
Bah alors Gaza ou l'IVG, qu'est-ce qu'on
dans les pays où il y a l'extrême droite. Non, mais dans l'IVG, juste pour faire un petit court mot, mais dans les pays où il y a l'extrême droite, généralement, on remet en cause.
Voilà, et on n'est pas à l'abri de l'extrême droite.
Comme on n'est pas à l'abri de l'arrivée, c'est tactique. Par rapport au Rassemblement National en France, comme on n'est pas au fait que le Rassemblement National peut venir en France et que ce concept de la famille, papa, maman et ainsi de suite, donc on peut remettre en cause l'IVG.
Voilà,
donc
l'inscrire dans le marbre de la Constitution. Sur l'IVG, parce que je vais faire un tour de table.
L'inscrire dans le marbre de la Constitution, c'est une bonne chose.
Oui, je suis d'accord.
Voilà. Oui, forcément.
Dans le marbre, exactement. Gamal Abin, l'IVG.
Moi, j'aime parce que pour une fois, on a une femme sur un plateau et je considère que c'est une question éminemment féminine. Que à la limite, même si on est d'accord, on n'a rien à dire. Elle choisit.
Vous êtes d'accord, Loubna?
Complètement, et on devrait aussi inscrire dans la Constitution d'autres choses, mais j'espère que ça sera...
Gaza, menacée désormais par la famine, le cap des 30 000 morts, sachez-le. C'est pas moi qui le dis, hein, les morts franchis, selon le Hamas. Et d'ailleurs, ça va beaucoup plus loin, puisque, vous savez, c'est aussi l'ONU qui en parle, ça y est. Tout le monde s'en mêle, y compris la communauté internationale. Alors, Gamal Abin, faisons un tour de table.
Simplement, c'est que cette guerre inutile, encore une fois, parce que toutes les guerres sont inutiles, je le rappelle tout le temps.
La famine, surtout.
On va y arriver, justement. Aujourd'hui, elle est traitée par un homme qui est un extrémiste de droite.
Et je parlerai aussi de ces tirs lors des distributions
d'aide
à Gaza.
L'extrémisme de droite s'exprime. Il ne rend pas service à son peuple parce qu'il n'en a rien à faire de son peuple. On a vu ce qui s'est passé au début du conflit. Donc aujourd'hui, on est sur quelque chose qui est sale parce que lui veut rester aux commandes, quoi qu'il arrive, pour ne pas prendre deux coups, parce qu'il est poursuivi, parce qu'une énorme majorité de la population le déteste, parce qu'il ne veut pas faire en sorte d'amener un terrain de paix, il ne veut pas l'État palestinien, il le dit, il le répète tout le temps. Ensuite, il y a effectivement un siège qui rappelle le Moyen-Âge. On est arrivé sur quelque chose d'extrêmement violent qui fait que les Gazaouis meurent par centaines par jour, et ce siège va avoir des conséquences lourdes. Je rappelle que, pour donner une vérité, il y a une trentaine de soldats israéliens aujourd'hui qui sont revenus avec des virus. Donc on est sur quelque chose d'extrêmement violent, et ils commencent à s'alarmer de l'autre côté. Donc ça en dit long.
Lobna, Sta.
moi, je déplore tout ça et j'espère que ça va. Il va avoir vraiment un cessez-le-feu avant Ramadan. Et
ils sont en négociation. Ça.
Et franchement, voilà quoi, la famine. Voilà, moi, ça me tue de savoir que.
Bah, Philippe Ndjibouyaki.
Il y a le droit international qui doit se respecter. On peut pas laisser 2 millions de civils otages de terroristes en les obligeant à mourir de faim, sans les privant de soins. Moi, je suis sur la position de la France qui demande un cessez-le-feu immédiat. Et l'avenue de l'émir du Qatar, pour moi, est vraiment un bon signe d'une évolution rapide, autant sur la libération des otages, mais autant cessez-le-feu, certes, mais si on ne laisse pas l'aide humanitaire rentrer.
Et d'ailleurs, je l'avais dit, je l'avais annoncé la semaine dernière, j'organiserai un débat justement concernant le conflit israélo-palestinien, ici même, la semaine prochaine, probablement, avec des élus, avec des personnalités, avec. Voilà, on fera un tour de table. Hassan Ben Barek, avant de retrouver le quoi de neuf.
Bah, écoutez, 30 000 morts, essentiellement des femmes et des enfants, je trouve que c'est fortement regrettable.
Et encore, c'est que 30 000 veulent.
30 000, bon, c'est énoncé. Je pense que c'est plus au regard des destructions et du volume de destruction. Je pense que c'est beaucoup plus. Je pense qu'aussi, M. Netanyahou et son gouvernement d'extrême droite portent une lourde responsabilité. Tous les acteurs aujourd'hui politiques, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou dans le monde arabe, sont d'accord pour dire que la personnalité de M. Netanyahou pose un problème. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a eu un basculement de l'opinion mondiale en faveur de la cause palestinienne. Et ça ne fera pas forcément les affaires d'Israël. Mais pour revenir sur ce qui s'est passé aujourd'hui sur la distribution...
On n'a plus le temps. Je dois lancer le quoi de neuf. Je suis désolé parce que sinon, effectivement, on va se retrouver très très en retard les 19h50 et on est dans les clous. C'est ce que je voulais. Le quoi de neuf, c'est parti.
Les informés. Les informés. Le quoi de neuf.
Habituellement, comme chaque jeudi, vous le savez, jeudi, c'est Pascal Boniface, le directeur fondateur de l'Institut Léris. Eh bien, il est remplacé et Didier Billon va tenter d'endosser, eh bien, justement, le costume pour nous livrer son billet d'humeur. Bonsoir, Didier Billon. Comment ça va?
Bonsoir, eh bien, ça va parfaitement. Heureux de vous retrouver.
Eh bien, carrément, donc vous allez endosser évidemment ce costume, cette lourde responsabilité justement. Vous êtes le directeur adjoint de l'IRIS. Donc, on vous écoute, je vous lance concernant le billet d'humeur et vous avez fait le choix de nous parler du président de la République, Emmanuel Macron. Alors, on vous écoute.
Eh bien, oui, effectivement, ces derniers jours, le président Macron est intervenu publiquement à 2 reprises à propos de la guerre russo-ukrainienne. La première, c'était le 16 février, sous forme d'une conférence de presse avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, où il annonce à tout de go eh bien, l'attribution de 3 milliards d'euros en soutien à l'Ukraine. Et puis, la deuxième fois, c'est le 26 février, c'est plus récent, où à l'issue d'une conférence internationale de soutien à Kiev, bon, en réalité plus modestement, la réunion d'une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement européens, convoqués un peu à la hâte à Paris, bah, il évoqua sans embâge l'hypothèse d'une intervention militaire occidentale en Ukraine et précisait-il, je le cite, « nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre ». Eh bien, de mon point de vue, ces déclarations posent de nombreux problèmes. Tout d'abord, le ton très martial, menaçant à l'égard de la Russie qui a été utilisé par Emmanuel Macron, qui semble visiblement vouloir se donner des airs et des postures d'un chef de guerre, ce qui, au demeurant, n'impressionne pas grand monde et sûrement pas Vladimir Poutine. Ensuite, eh bien, ces déclarations, ces perspectives sont directement sorties du cerveau de M. Macron, sans qu'à aucun moment elles n'aient été débattues démocratiquement, ni au sein du Parlement, ni avec nos partenaires et alliés. La meilleure preuve, c'est que dans les heures qui ont suivi cette bravade macronienne, Joe Biden, le président des États-Unis, et la grande majorité des dirigeants européens, eh bien, ont réaffirmé qu'il n'était pas question pour eux d'envoyer des troupes en Ukraine. Et donc, une fois de plus, le président Macron se retrouve assez piteusement isolé. Enfin, et c'est peut-être là le plus important, c'est le contenu politique de la déclaration de lundi soir dernier, c'est-à-dire cette possibilité d'engager des troupes pour combattre la Russie, que je trouve d'une extrême gravité, car elle pourrait nous placer dans une logique de situation de guerre ouverte avec Moscou. Alors, au vu de la complexité et de la sensibilité des enjeux, ces déclarations ne sont vraiment pas sérieuses. Le risque d'engrenage est réel et un président responsable ne peut manier de telles menaces avec une si grande légèreté sans qu'encore une seule fois n'ait été démocratiquement débattue ces questions. Donc, cette irresponsabilité du chef de l'État n'est pas sans nous rappeler la proposition qu'il avait formulée le 24 octobre dernier aux côtés de Netanyahou, d'une coalition internationale contre le Hamas à l'image de celle qui avait été constituée en son temps contre Daesh. Cette idée saugrenue et très dangereuse, au demeurant, n'avait heureusement pas été soutenue à l'époque, à l'exception des dirigeants israéliens eux-mêmes. Et depuis lors, on a pu constater que les critiques d'Emmanuel Macron à l'égard de l'État d'Israël étaient plutôt mesurées, pour ne pas dire plus. Donc une nouvelle fois, c'est un deux poids deux mesures, un double standard pour le moins problématique. Menace d'engagement militaire à l'encontre de la Russie, d'une part, et grande retenue à l'égard de l'État d'Israël, d'autre part. Je trouve que ce double standard ne peut continuer. Il est véritablement inacceptable.
Merci et bravo Didier Billion, le directeur adjoint de l'Institut Le RIS. Merci, à la semaine prochaine, sans faute.
Sans faute, merci.
Bon, lui, hein.
Il est pas mal,
il est pas mal, hein, bien. Pas mal. Non, c'est bien. Bien. Factuel. Non, très, ouais, factuel et je dois reconnaître... Comment ?
Il y a un bon retour sur l'histoire. J'aime bien les gens qui prennent un pas de recul par rapport à...
Exactement, c'est vrai, c'est vrai. Didier qu'on retrouve dès la semaine prochaine, donc ici même dans les informés. Allez, on quitte l'antenne, hein, vous savez, ça passe super vite, hein, les
ça
amis.
Ça passe vite, hein, ouais.
Ah ben,
à la semaine prochaine.
C'est bien, c'est bon.
Si Dieu veut.
Si Dieu veut. Lobna, Star. Gamalabine, à bientôt. Cher Hassan, à bientôt.
À bientôt.
Ben Barak, Philippe Ndiboyaki.
À très vite.
Reposez-vous aussi. Hein.
On va essayer. Oui. Mais voilà, on se prépare pour les européennes, ça avance bien.
Ça avance bien ?
Ouais.
Waouh.
Ah, ils ont l'équipe de choc. Hein.
Vous viendrez nous livrer quelques petites.
On travaille dur.
Travaille dur. Bon, merci à Solal à la réalisation, mais également aussi à Kim qui était là. En deux temps, on a eu le luxe d'avoir deux réalisateurs. Vous vous rendez compte quand même. Bilal Lendman, 21, Vanessa, 21h, Kim demain matin, à demain avec autant de plaisir, mais surtout, on ne lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.